RCF. Bonsoir, bienvenue pour un 18-19 en champagne spéciale ce soir, non pas parce qu'on a une programmation exceptionnelle, non pas parce que nos invités vont être bouleversés par rapport à vos habitudes du vendredi, non, la seule habitude qui change, c'est qu'aujourd'hui, c'est la dernière de Manon Bréval, notre stagiaire à la rédaction. Pour l'occasion, c'est elle qui prend les rênes de cette émission. Vous êtes entre de bonnes mains pour les 50 prochaines minutes. Manon, bonsoir.
Bonsoir Alexis, très heureuse de prendre le relais de l'animation, un peu de féminité, de gaieté et de sourire pour vous ce soir. Et pour mon dernier 18-19, je suis donc accompagnée d'Alexis, mais aussi de Kylian, stagiaire à la rédaction. Bonjour Kylian.
Bonsoir Manon.
Jean-Pierre nous rejoindra dans quelques instants dans ce magazine régional sur RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. On retrouvera Jacques Cohen qui nous parlera de Lysistrata en Ukraine pour sa chronique d'actualité. Jean-Pierre prendra le flambeau avec un maire qui nous parle. Marcel Vergès nous emmènera dans sa commune de Ventelet. À la suite, le journal régional. Puis Christopher Fausten sera en ligne avec Yann Le Gouen pour évoquer les Compagnons du Goût. Jusqu'au 23 décembre, les professionnels et artisans champenois se mobilisent pour les enfants malades. En suivra donc Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui était notre invité de ce matin dans Parole d'évêque avec Jean-Pierre Benoît. Pour finir, on parlera festivités avec le lancement des illuminations de Vitry-le-François ce vendredi. Comme tous les vendredis soirs, c'est Jacques Cohen qui ouvre le bal avec votre journaliste préféré, Alexis Claudretz.
La question d'actualité avec le professeur Jacques Cohen en ligne avec nous par téléphone. Jacques Cohen, bonjour.
Bonjour.
Lysistrata en Ukraine, c'est l'objet de votre chronique d'actualité cette semaine. Lysistrata, c'est un nom qui sonne grec pour nous parler de l'Ukraine. Dès l'entrée de votre chronique, vous nous perdez un petit peu aujourd'hui, professeur. Il va falloir nous donner quelques explications.
Absolument, je vais vous retrouver et vous recaler. Lysistrata, c'est bien grec. Et Lysistrata, c'est un nom féminin et qui, au mot à mot, veut dire licencier l'armée, faire fondre l'armée, la dissoudre l'armée. C'est le nom d'un personnage principal d'une pièce d'Aristophane qui, en 411 avant Jésus-Christ, dans la énième guerre entre Sparte et Athènes, représente comme fil conducteur que les femmes en ont assez. Elles en ont assez et annoncent que leurs maris, dans les deux camps, pourront, si j'ose dire, faire ceinture jusqu'à ce qu'ils aient rétabli la paix. C'est la grève, mais c'est la grève de l'amour. Pourquoi évoquer ce personnage et cette histoire à propos de l'Ukraine? Parce qu'il vient d'y avoir plusieurs manifestations de femmes de soldats en Ukraine avec comme thème « 18 mois, ça suffit ». C'est-à-dire que leur revendication, c'est que les soldats soient démobilisés au bout de 18 mois de front, si je suis tenté qu'ils soient encore en vie, malheureusement. Alors, cette crème, c'est un symptôme important que la société civile ukrainienne a du mal avec cette guerre interminable. D'autant plus que la situation interne en Ukraine est que la guerre est très inégalitaire. Les paysans, les gens des campagnes sont mobilisés, alors que dans les villes, compte tenu de la corruption, il y a énormément d'exemptés. C'est ce qu'on appelle dans toutes les guerres les planqués. Et même, il y en a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui vont pas à l'armée, ceux qui ont des affectations à des travaux présumés intérêt essentiel pour le pays, mais ce qui est à géométrie variable. Et il y a même un autre problème, c'est l'énorme milice territoriale, c'est-à-dire que des tas de gens mobilisés ont réussi à se faire affecter pas trop mal chez eux, à contrôler les bagnoles au coin de la rue, mais surtout pas à les prendre des obus sur la gueule. Donc tout ça crée une tension, parce que ceux, ou celles plutôt, dont les époux sont au front, ils doivent surtout revenir à les cercueils, plus les souffrances de tous ceux qui restent en vie et qui endurent une guerre de tranchées. Alors les guerres de tranchées, c'est toujours un gros dissolvant sur des désagrégations pour les sociétés civiles dans les deux camps. Et là-dessus, on vient de voir donc qu'il y a des signes de fissure en Ukraine. Et en Russie, malheureusement, la tactique choisie par les Ukrainiens et déconseillée par les Occidentaux, enfin c'est essentiellement par les Américains parce que c'est eux qui décident, cette tactique a considérablement renforcé Poutine. En effet, la guerre, ce n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Et les Ukrainiens ont fait un choix de porter la guerre en Russie. Alors les Américains, les Occidentaux leur ont dit, vous le faites pas avec notre matériel, mais ils le font avec des missiles ex-soviétiques, ils le font avec des drones de petite charge. Ils ont tenté une provocation majeure qui a été d'envoyer quelques Russes en territoire de la Fédération de Russie, et comme par hasard, ils leur ont pas donné des anciens matériels soviétiques, délibérément, ils leur ont donné du matériel américain et polonais. Donc là, je pense que les puissances en question ont dû protester une bonne fois pour dire que vous recommencez pas. Et d'autre part, cette attaque, c'est ce fait d'envoyer des drones sur Moscou, par exemple, où la politique d'assassinat ciblé de personnalités russes ou favorables aux Russes sont très très mauvaises du point de vue rendement politique. y compris d'ailleurs d'attentats récents contre le transsibérien, contre les voies ferroviaires en Sibérie, plus de 4000 km de l'Ukraine, c'est peut-être techniquement une prouesse, si je puis dire. Mais politiquement, c'est un désastre. Parce que chez les Russes, où il y avait pourtant des signes de désagrégation de la société importants, on voit l'aventure de Prigojine qui a tenté un raid sur Moscou, eh bien, l'attitude de la population, c'est le rassemblement autour du drapeau, y compris des tas de gens considérant que Poutine a fait une énorme connerie, considèrent que maintenant que le vin est tiré, il faut le boire parce que sinon les autres vont en profiter, ils veulent nous envahir, ils veulent détruire la Russie, que donc il n'y a pas d'autre solution. Donc, résultat, Poutine sera réélu dans un fauteuil en mars, et même si il y avait les élections les plus honnêtes possibles, ça serait exactement le même résultat. Et ça, c'est une énorme bêtise des Ukrainiens. Accessoirement aussi, à jouer à tirer en Russie, ou bien dans les territoires occupés, de la même façon avec des missiles plus ou moins précis, de la même façon que les Russes, ils se retrouvent dans une situation qui va empêcher de poursuivre pour, comme crime de guerre les bombardements de villes et de civils, l'emploi de sous-munitions, etc. On est un peu dans une situation qui s'est déjà trouvée, qui est que les nazis ont commencé par détruire Rotterdam, Coventry, etc. Mais les alliés leur ont rendu la même chose. Et de ce point de vue-là, il ne s'agit pas de dire bah, « c'est eux qui ont commencé ». En termes de crimes de guerre, si on fait la même chose, on ne peut plus leur reprocher. C'est ce qui s'est passé à Nuremberg, où les alliés ont dû abandonner l'accusation de crimes de guerre pour les bombardements des villes. Et là, les Ukrainiens ont fait la même chose, en plus avec moins de moyens. En fait, il faut regarder plus sereinement quelles sont les tactiques des Ukrainiens qui leur restent comme possibilité. Tout d'abord, le rapport de force dans la guerre de tranchées va devenir, pendant au moins un an, défavorable aux Ukrainiens, à la fois parce que l'industrie de guerre occidentale est plus lente à démarrer, à la fois parce qu'il y a une focalisation sur le Moyen-Orient, et aussi que les Ukrainiens, finalement, coûtent cher. Pas seulement des dépenses militaires, mais les dépenses civiles, des aides européennes qui sont non seulement considérables, mais qui s'évaporent. C'est-à-dire que, par exemple, les Européens ont fait une fleur pour les poulets, et tout ça atterrit dans un holding qui, lui, est basé à Chypre. Donc, la population ukrainienne ne voit aucun bénéfice de cette chose-là. Les choses sont en train de recommencer pour la betterave, où, bien sûr, il y a du glyphosate là-bas. Chez nous, ça a réduit considérablement la production d'enlever le glyphosate. Et la question de savoir si c'est utile ou pas, c'est autre chose. Et ça va être la même chose parce que toutes les industries ukrainiennes, même agroalimentaires, sont contrôlées par des oligarques qui ne reversent rien à l'État. Il y a eu d'autres opérations assez catastrophiques. C'est l'autorisation d'exportation du blé, puisque par la mer Noire, ça posait des problèmes, à travers la Pologne. Et ce blé à travers la Pologne, lui aussi, il s'est répandu sur la voie, si j'ose dire, en marché noir en Pologne, au point que les Polonais ont fini par interdire le passage de ce blé qui était censé ne faire que transiter, mais qui dégoulinait sur place, et qui, au marché noir, ruinait donc les producteurs polonais. Ça n'est pas forcément de l'amitié et de la franche camaraderie dans les pays autour. Alors, au départ, les Ukrainiens étaient parfaitement conscients qu'ils sont incapables, dans une confrontation à l'usure, de vaincre un pays qui est 4 fois plus gros qu'eux. Même si les Occidentaux filent le matériel, les hommes, le sang, ça c'est toujours ukrainien, et ils ne peuvent pas, si j'ose dire, tenir la distance, comme le montrent ces fissures sur les mobilisations indéfinies des soldats ukrainiens. Ils ont essayé une tactique, au départ, d'implication des Occidentaux, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir un élargissement du conflit, et là-dessus, les Américains leur ont dit que la guerre mondiale, ils n'avaient pas envie et que ce n'était pas question. Après, ils ont tenté des provocations en Russie, si on peut dire, pour essayer de provoquer des réactions russes telles que les Occidentaux ne puissent pas faire autrement que de suivre. Et ça ne marche pas non plus, parce que manifestement, il y a des canaux ouverts entre les Occidentaux et les Russes, et les Russes ont fait preuve d'un grand sang-froid à ne surtout pas vouloir une escalade. Donc là-dessus, les Ukrainiens sont assez embêtés. Alors les tactiques d'assassinat ciblés, y compris le journaliste, là aussi, ça a posé des problèmes, parce que les Américains avaient dit, les services américains, comme on dit, la communauté du renseignement, avait dit aux Ukrainiens que n'oubliez pas que les Russes peuvent en faire autant. Et c'est ce qui vient de se passer avec un coup de semonce.
Eh bien, on vous laisse terminer très rapidement, Jacques Cohen, mais il faut conclure.
Oui. Parce que les Russes ont empoisonné la femme du chef du service de renseignement d'Ukraine, pour l'histoire de montrer à son chef qu'il pouvait y arriver aussi, et qu'il arrête ce genre de choses. Donc, il reste une seule chose aux Ukrainiens comme grand dilemme, rester sur une situation de statu quo, ou tenter une offensive de type dissuasion du faible au fort, c'est-à-dire tenter une offensive qui aboutisse à leur défaite, sans réserve derrière, et dire aux Occidentaux, vous voyez, les Russes sont maintenant en situation de nous massacrer, de conquérir une grande partie du pays, puisque notre rapport de force est dégradé, vous ne pouvez pas nous laisser tomber, parce que ça serait une défaite pour vous aussi. Donc, il y a une grande hésitation entre deux lignes, celle de Zaloujny, le chef militaire, militaire qui est « on stabilise statu quo comme on peut » et celle portée, semble-t-il, par Zelensky qui est « on tente le tout pour le tout à poursuivre des offensives et si on s'écroule, de toute façon, les Occidentaux ne pourront pas nous laisser tomber ».
Plus d'informations sur votre blog, jhmcohen.com. C'est la fin, professeur. On est au-delà du temps en partie. À très bientôt, Jacques.
Oui, à très bientôt.
À très bientôt, professeur. Merci. Quant à vous, Alexis, on vous retrouve dans quelques instants.
Le 18-19 sur RCF.
Il est 18h20 sur RCF, France-Ardennes, RCF, Cœur de Champagne. Tout de suite, je laisse la parole à Jean-Pierre pour le rendez-vous quotidien, un maire qui vous parle. Ce soir, on se penche sur la commune de Ventelet, dans la Marne. Marcel Vergès, au micro de Jean-Pierre ce soir.
Marcel Vergès, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors, on a envie de connaître votre action, vos missions en tant que maire, mais aussi que vous présentiez un peu votre commune Ventelet. Pouvez-vous nous dire où se trouve Ventelet, le nombre d'habitants ?
Tout à fait, bien, je vais vous expliquer tout ça. Donc, nous avons une population de 260 habitants. Ça progresse un petit peu au prochain recensement, je pense que ça sera mieux, puisqu'il y a des nouvelles familles qui se sont installées sur Ventelet. Le gentilé, c'est ventilésien, ventilésienne. Nous avons choisi ce nom-là il y a quelques années parce qu'il n'y en avait pas avant. Nous sommes une très très grande commune puisque nous avons plus près de 1500 hectares de superficie et notre conseil municipal bien sûr est composé de 11 membres et nous avons une secrétaire de mairie et un employé communal 2 jours par semaine.
Marcel Vergès, je vous interromps un peu, mais vous êtes maire depuis combien de temps ? Ça fait quelques années ?
Oui, alors ça fait quelques années, ça va faire bientôt 20 ans j'allais dire, puisque je suis maire depuis 2004. Alors c'était au milieu d'un mandat, puisque le maire précédent n'avait plus l'accord du conseil municipal et donc a démissionné. Et on est venu me chercher. Comme je suis un homme qui m'investit complètement, j'ai été élu conseiller municipal et aussitôt après maire.
Alors c'est vrai que quand on parle à des responsables publics, ils disent tous, quelle que soit la taille de la commune, le plus beau mandat, c'est celui de maire. C'était un peu dans votre ADN d'être maire, vous aimiez prendre des responsabilités, peut-être déjà dans le monde associatif ?
Mais tout à fait, puisque j'ai fait une carrière militaire, mais une carrière militaire dans le sport et dans beaucoup d'autres choses, et dans le que j'étais éducateur sportif aussi, dans les clubs de Crécy, mais notamment à Reims, quand j'étais à Reims. Et puis j'ai terminé ma carrière en tant qu'officier des sports au Sud-Liban, en tant que casque bleu. Et là, ça m'a permis de finaliser un petit peu le tiers de ma vie, on va dire. Et j'ai décidé après de changer et de travailler dans le commerce, et ensuite de revenir à la retraite dans le village où mon épouse avait des attaches.
Alors, votre commune, comment peut-on la caractériser, Marcel Vergès ? Les habitants, des retraités, quelques jeunes qui arrivent, quels sont-ils ces habitants de Ventelet ?
Alors, c'est la caractéristique principale de la commune, c'est une commune agricole, essentiellement agricole, avec quelques artisans, mais aussi de nombreux habitants qui, généralement, travaillent sur Reims. Et c'est une commune qui a un passé très 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 important, puisque notre église date du XIIe siècle. Bien sûr, il y a eu plusieurs rénovations sur ce bâtiment. L'étymologie du nom de Ventelet vient du latin ventilatum, signifiant bourgade exposée au vent. Et c'est vrai que de temps en temps, il fait un petit peu de vent à Ventelet, mais nous avons rarement des dégâts.
Ah ben ça veut dire que c'est une commune où on respire, bon, s'il y a du
voilà,
vent.
C'est ça, c'est ça.
Alors il faut dire, monsieur le maire, qu'un maire, souvent, il est sollicité, il y a beaucoup d'ailleurs de jeunes ou de moins jeunes qui aujourd'hui renaclent un peu parce que c'est quand même des responsabilités, et c'est du temps aussi à prendre sur sa vie personnelle.
Tout à fait, mais bon, j'allais dire, quand on s'engage, que ce soit pour un mandat ou pour autre chose, ben, il faut le faire à fond. Et j'ai toujours eu l'habitude, c'est peut-être mon passé militaire, de faire tout ça à fond. Et j'ai une devise très proche, j'allais dire, des choses qui font du bien aux gens. Donc rendre service, ça ne pose pas de problème. Et ma devise, c'est toujours vouloir entreprendre et réussir quand on peut.
Ça, c'est bien, vouloir entreprendre, réussir. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs, ils sont en train de noter, parce que ça, c'est vrai dans la vie de chacun. Alors, est-ce qu'on est encore le patron quand on est maire chez soi ? On se tourne vers vous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le Grand Reims, il y a des communautés de communes,
oui.
Mais le maire, il existe toujours, c'est celui à qui on va s'adresser d'ailleurs.
Mais oui, bien sûr que le maire existe toujours, et je pense qu'il ne faudra pas changer ça, tant qu'il y aura au moins des gens qui veuillent bien remplir ce mandat-là. Depuis le début, j'ai toujours été un fervent partisan de la communauté urbaine du Grand Reims, pour tout vous dire. La ville et le rural sont complémentaires, et notre charte est un atout qui n'est pas fait pour avoir des désaccords, mais plutôt pour avoir un accord entre la grande ville de Reims et les petites villes autour, et la campagne. Même si ce transfert, on a perdu quelques compétences, ou on a transféré plutôt, ce n'est pas un handicap pour les petites communes. Je suis avec mon conseil municipal et les acteurs du développement de notre village, avec l'aide de la communauté urbaine du Grand Reims.
Absolument. Beaucoup d'ailleurs de maires pensent comme vous. Alors, quel type de demande? Parce que le temps passe très vite dans cette émission, on aura l'occasion de nous retrouver. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos habitants que vous rencontrez tous les jours sur le terrain? Parfois, c'est des questions un peu personnelles, parce qu'il y a ci ou ça qui va pas. Bon, on demande, on est à portée, comme on disait un peu familièrement, Gérard Larcher, le président du Sénat, à portée d'engueulade, mais aussi à des gens qui vous encouragent quand même.
Eh bien oui,
Il y a tout.
Bon. Les demandes sont très variées et avec l'aide de notre secrétaire de mairie, on essaye de répondre au mieux aux attentes de nos administrés sur les problèmes de voisinage, l'urbanisme, la réglementation, un problème récurrent d'ailleurs. Dans la plupart des communes, ce sont les vitesses excessives en traverse d'agglomération. Nous avons fait des investissements importants pour essayer de régler et d'atténuer ce problème. Mais on n'a pas trouvé la solution miracle. Donc si jamais il y a un maire qui a une solution miracle, je suis prêt à la prendre.
Eh ben, qu'ils appuient ces automobilistes un peu moins sur le champignon, monsieur le maire.
Le champignon,
mais ça, vous ne pouvez pas agir. Il faudrait faire de la prévention routière. Est-ce que vous avez des projets en cours, à court terme, à moyen terme, à long terme, pour Ventelet?
Oui, j'ai toujours eu des projets pour Ventelet, puisque on me dit que le village a bien changé. Puisque, dernier moment, on vient de nous attribuer une deuxième fleur dans notre village. Je vais quand même vous lire la décision du jury. Alors, ils ont décidé de nous accorder une fleur supplémentaire, c'est-à-dire une deuxième fleur. Et en conclusion générale, ils ont mis petite commune composée d'une équipe municipale et de bénévoles très motivés. Commune qui a beaucoup progressé dans l'amélioration de son cadre de vie. Donc, passage à la deuxième fleur, amplement mérité. Donc, vous voyez que...
Envie de vous applaudir et de dire bravo.
C'est gentil.
Bravo, monsieur Vergès.
Donc, les habitants en sont conscients, ils participent aussi, dans leurs possibilités, bien sûr. Mais bien sûr aussi, le maire a des fois quelques petits problèmes avec les habitants.
C'est inévitable.
Mais c'est inévitable et peut-être que ça enrichit un petit peu aussi les décisions des fois.
Propose, Marcel Vergès, de refaire une autre émission avec vous parce que on arrive pratiquement au bout des 9 minutes. Vous savez, ça va très très vite. Oui. On n'a pas pu évoquer la vie professionnelle, la vie familiale. J'imagine que vous savez conjuguer. Mais est-ce que vous êtes un maire heureux pour terminer?
Oui, tout à fait. J'aime le dire. Maintenant, je suis maire 24 heures sur 24 depuis une dizaine d'années que je suis en retraite. Mais cela n'est possible que quand votre épouse est un soutien indéfectible. Voilà.
Et vous êtes entouré et votre épouse vous aide dans vos fonctions de maire. Merci en tout cas, Marcel Vergès, maire de Ventelet, d'avoir été avec nous. On est très content de vous avoir eu aujourd'hui dans cette émission « Votre maire nous parle ». Et puis je suis sûr qu'avec vous, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, on fera aussi d'autres émissions. Merci d'avoir été avec nous, Marcel Vergès, et à bientôt sur RCF.
Un maire heureux, quoi de mieux? Merci, on est toujours ensemble dans le magazine régional, mais quel plaisir de faire l'animation pour vous ce soir, on est toujours avec Alexis et Kylian. Et quand la pendule flirte avec 18h30, c'est l'heure du journal régional. Les titres de ce vendredi 8 décembre 2023. Les écomaires de France participent à l'écriture du futur schéma de la biodiversité avec le gouvernement. Illustration avec Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François. On continue le tour d'horizon des marchés de Noël en région. Ce vendredi, nous faisons étape à Sedan.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Et vous l'avez compris, c'est bel et bien Manon qui continue de vous présenter l'information ce vendredi.
Ce vendredi 8 décembre est la journée de la laïcité. Dans ce cadre, le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, s'est rendu au collège Georges Braque de Reims. Après la lecture de la charte de la laïcité, les élèves de 6e ont illustré un article de leur choix par un dessin. Les élèves de 5e ont réalisé un nuage de mots, les élèves de 4e ont rédigé un article et les élèves de 3e ont rédigé un poème, une BD ou un court récit. De nombreuses actions éducatives, culturelles et solidaires se sont déclinées autour de cette journée dans les écoles et établissements des 4 départements de l'Académie. Par ailleurs, depuis plus de 30 minutes maintenant, la ville de Reims et l'Institut catholique de Paris Campus de Reims organisent une soirée d'échange sur la laïcité en présence de l'archevêque de Reims, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui sera notre invité en deuxième partie d'émission dans ce magazine régional. À Sedan, le marché de Noël, comme l'an passé, se déroulera sur une seule semaine, coup d'envoi vendredi prochain. Un marché de Noël qui aura lieu sur la place d'Armes avec 12 chalets d'artisans de vente de cadeaux et un espace restauration. Tous les jours, les enfants pourront rencontrer le Père Noël dans son chalet et bénéficier d'une animation gratuite. Cette année, les festivités seront prolongées par des attractions foraines jusqu'au 3 janvier sur la place de la Halle avec une patinoire en revêtement synthétique et un manège de rennes pour les plus petits. Pascal Naissance, conseiller délégué aux animations de la ville de Sedan.
12 chalets qui seront sur la place d'Armes avec de nombreuses ventes concernant les produits de Noël, concernant les produits de bouche et puis de la restauration et d'avoir une période qui va être festive, qui va être un pré-Noël et qui va amener les gens dans le centre de Sedan afin de leur faire découvrir ce marché de Noël et puis j'espère faire leurs achats dans les commerces de Sedan. On va illuminer l'ensemble des places et l'ensemble des rues le 2 décembre avec tout ce qui sera en LED pour diminuer la consommation énergétique et avoir un marché de Noël qui soit relativement économe.
Pas de Noël sans sapin, cette année encore, en guise de sapin, la fameuse structure métallique souvent critiquée sera habillée de 200 sapins venus de Bièvre en Belgique. Le choix de ce sapin métallique de 12 mètres de haut et de 6 mètres de circonférence qui sera installé sur la place d'Armes est la solution idéale, indique l'adjoint à la culture et au sport Maxime Villa.
Ce grand sapin qui se situe à l'entrée de la place d'Armes, c'est la solution idéale en termes techniques, esthétiques et écologiques. Technique puisque c'est une structure qui est consolidée, qui est sécurisée, et c'est important parce qu'il y a des habitations autour. En termes esthétiques, également c'est un succès puisque une grande partie, si ce n'est tout, les visiteurs aiment ce grand sapin qui est très bien décoré. Et en termes écologiques également, puisque c'est une structure qui est fabriquée dans Lyon, dans une entreprise donc française, dans une chaudronnerie qui est à 20 km de la société Abyss Décor, donc 100% française, avec des sapins qui viennent de Bièvre en Belgique, donc vraiment du circuit très court, 200 sapins qui viennent de Belgique, et ensuite que la ville récupère pour broyer et récupérer pour ses plantations. Donc voilà, une solution vraiment idéale, et en plus, ne l'oublions pas, qui plaît à tout le monde.
Les retours de l'an passé sur le marché de Noël de Sedan sont positifs, insiste également l'adjoint, un investissement cette année à la hauteur de 88 000 euros. C'est un peu moins que l'an passé pour ces festivités de Noël, dont le sapin pour 11 000 à 12 000 euros avec les décorations. Le prix à payer pour que les Sedanais profitent eux aussi de Noël, les illuminations et les chants dans les rues de la cité de Turenne ont débuté depuis le week-end dernier, programme complet du Noël blanc à Sedan sur le site de la ville de Sedan.fr. Vous avez une information à nous donner, Alexis, sur le diocèse de Châlons.
Eh oui, Manon, effectivement, un an et demi après la dissolution de la communauté du Verbe de Vie, l'abbaye Notre-Dame d'Annecy, située à Baye, dans le sud-ouest de la Marne, devrait être mise à disposition à l'œuvre d'Orient. Le conseil d'administration s'est finalement prononcé favorablement, et c'était il y a quelques jours, le 6 décembre 2023. C'est ce qu'annonce le communiqué officiel du diocèse de Châlons. L'association diocésaine de Châlons et l'œuvre d'Orient devraient signer prochainement un engagement pour une expérimentation de 2 ou 3 ans. Plus d'informations à venir.
La semaine dernière, les dirigeants de l'Association des écomaires de France étaient reçus par la première ministre Elisabeth Borne pour participer à l'élaboration du futur schéma de la biodiversité. Le président des écomaires de France, Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François, présente qui sont les membres de l'Association des écomaires de France.
Ça veut dire qu'on anime avec d'autres un réseau de communes en France, plus de 2000 communes, alors des petites et des grandes. Dans les grandes, il y a Marseille par exemple. Voilà, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Il y a Nantes, bon voilà, il y a toute une série de collectivités de tailles diverses et variées. Alors souvent c'est les collectivités avec leurs intercommunalités. Et donc ce sont des communes qui sont en pointe sur le développement durable. C'est un mouvement qui a été lancé il y a 30 ans. Et donc aujourd'hui, tout le monde parle d'écologie et on fait partie de ceux qui font les opérations, voilà. Mais on a aussi beaucoup à gagner à écouter les autres, à échanger, à apprendre dans les expériences développées par les uns et les autres. parce que il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une personne qui a la vérité révélée. Il y a des vérités selon les territoires, des réponses, et on peut toujours s'inspirer des autres. Voilà. Les Écomer, donc, c'est un partenaire des pouvoirs publics. Et donc, nous étions la semaine passée chez la Première ministre pour le nouveau schéma de la biodiversité. Donc, on est un peu épinéritative sur le sujet, mais on est également autre chose, hein, puisqu'on était au Salon des maires. On organise un concours qu'on appelle les éco-trophées. Donc, tous les ans, on remet à des communes, à des groupes de communes, mais également à des écoles, des distinctions, des éco-trophées pour leur engagement particulièrement significatif et emblématique sur les problématiques du développement durable.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet. De nombreuses réalisations se trouvent à Vitry-le-François et notamment la végétalisation de nombreux espaces comme la place de l'Hôtel de Ville et la rue de la Glacière ou l'espace Paul Bert et prochainement les alentours de la halle rénovée. Ce week-end, un seul numéro de téléphone, le 3637, c'est le week-end de soutien au Téléthon. De nombreuses actions près de chez vous sont organisées. Parmi les rendez-vous du week-end, il y a le sport que l'on n'oublie pas. Et pour l'agenda, c'est forcément Alexis qui s'y colle, car il faut bien le faire travailler un peu quand même aujourd'hui. Rebonsoir Alexis.
Rebonsoir Manon, effectivement, différents rendez-vous ce week-end, en commençant par ce soir en Pro B. Le Champagne Basket se déplace sur le parquet de Nantes, dans la salle métropolitaine de la Trocanie. Ça sera la 10e journée de championnat. En Ligue féminine de basket, les Flammes Carolo, 8e, affronteront Angers, 7e, à la salle Jean Bouin, pour un choc de la 10e journée, coup d'envoi à 20h. Volley en Liga, samedi, Chaumont se rendra à Montpellier pour la 11e journée, début du match à 19h30. Et puis il y aura aussi du football en Ligue 1, dimanche à 13h, Reims se déplace à l'Allianz Riviera pour y affronter Nice. Nice qui a concédé sa première défaite de la saison le week-end dernier. Ça va être un match chaud bouillant là aussi pour les Rouges et Blancs. Et puis les Rouges et Blanches joueront samedi en D1 à Arkema. Les féminines du stade de Reims recevront à Bethny Fleury la rencontre. Ça sera à 14h30. Match exceptionnel ce week-end, toujours en football, en Coupe de France. Dimanche, Reims-Sainte-Anne reçoit Dunkerque, coup d'envoi à 13h30. Voilà une équipe rémoise qui pourrait faire, pourquoi pas, un beau parcours, Manon.
Merci Alexis, place à la météo désormais, et pour ça, je passe la parole à Kylian. Bonsoir Kylian.
Bonsoir Manon, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices.
Alors, à quel temps faut-il s'attendre ce week-end en Champagne-Ardenne ?
Samedi, une journée pluvieuse encore. Et oui, c'est la mode en ce moment. Des minimales qui seront à 5 degrés, allant jusqu'à des maximales de 13 degrés pour accompagner cette pluie. Pas de pluie pour ce dimanche. À la place, nous aurons un ciel couvert toute la journée. Quelques éclaircies dans l'aube. Du matin jusqu'au soir, les températures se situeront entre 8 et 12 degrés. Samedi, nous célébrerons les pierres fourriées et dimanche, les romariques.
Merci Kylian, on vous retrouve la semaine prochaine aux côtés de Jean-Pierre et Alexis. Vous pouvez rester avec nous jusqu'à 19h, puisque si pour le moment le journal se termine, le magazine régional continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Allez Manon, on vous laisse respirer quelques instants. La suite de ce magazine régional, c'est avec les Compagnons du Goût, je crois.
Oui, effectivement, jusqu'au 23 décembre, des professionnels et artisans champardonnais se mobilisent au profit des enfants malades à travers une belle opération, les Compagnons du Goût. Pour nous en parler, Yann Le Guen, responsable de l'opération en ligne avec Christopher Fausten.
Yann Le Guen, bonjour.
Bonjour Christopher Fausten.
Merci d'être avec nous en ligne sur RCF, les Compagnons du Goût, une opération solidaire qui ne date pas d'aujourd'hui.
Absolument, nous avons la chance de bientôt fêter nos 10 ans de collaboration avec l'association des Petits Princes qui est créée en 1987 par Dominique Bayle. Et je me félicite de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre opération de Noël.
Alors qui sont ces professionnels et artisans, on peut dire, au grand cœur ?
Eh bien, écoutez, c'est tout simple. Le réseau des Compagnons du Goût existe depuis 1997. Donc le concept des Compagnons de Goût regroupe les artisans bouchers, charcutiers, traiteurs indépendants, bien sélectionnés parmi les plus dynamiques de la profession. Donc il faut savoir qu'on arrive à 550 artisans sur tout le territoire national. Et puis bien, chacun de ces Compagnons du Goût s'engage à respecter des valeurs telles que la passion et puis la solidarité évidemment.
Alors, même que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, les artisans bouchers et charcutiers redoublent une nouvelle fois d'efforts en lançant donc une grande opération au profit des petits princes, comme vous venez de le dire, Yann Le Guen, une opération partenaire à succès.
Partenaire à succès, effectivement, l'opération se déroule du 24 novembre au 23 décembre, donc on a encore le temps de pouvoir profiter de cette opération. Le but de l'association des Petits Princes est le financement des rêves d'enfants. Alors je m'explique par là, l'association suit le parcours hospitalier tout au long de l'hospitalisation des enfants. Un enfant qui peut être malheureusement malade à 5 ans et qui fait une rechute à 17 ans, l'association des Petits Princes va le suivre pendant tout son parcours hospitalier.
Alors, en quelques mots, Yann Le Guen, sur justement l'association des Petits Princes, même si on l'a présenté en quelques mots il y a quelques instants, est-ce qu'on peut en savoir davantage de cette association ?
Oui, alors au-delà, c'est une association, comme je vous le dis, qui finance les rêves d'enfants et qui est animée principalement par des bénévoles. Il y a évidemment des éléments salariés pour que l'association fonctionne. Nous, depuis notre collaboration avec l'association Les Petits Princes, nous avons pu récolter un peu plus de 292 000 euros de dons pour qu'ils puissent financer des rêves d'enfants. Alors un rêve d'enfant, ça peut être aussi bien, j'ai le souvenir d'un enfant qui avait 4-5 ans et qui souhaitait monter dans un camion de poubelle pour pouvoir faire la tournée, mais c'est aussi un adolescent ou une adolescente qui souhaite rencontrer un artiste ou un sportif pour pouvoir l'accompagner à réaliser son rêve. Voilà.
Une mobilisation qui va durer jusqu'au 23 décembre. Yann Le Guen, comment l'opération va-t-elle se dérouler ?
Alors c'est tout simple, chaque client qui se rend dans une boutique partenaire Compagnon du Goût va pouvoir acheter une sucette en chocolat à partir de 3 euros et ces 3 euros sont intégralement reversés à l'association. Donc le but c'est de la vente de sucettes en chocolat qui finance les rêves d'enfants.
D'ailleurs, Monsieur Le Guen, on va annoncer les différents lieux dans la Marne et dans l'Aube. On va commencer dans la Marne jusqu'au 23 décembre. Rendez-vous chez les Compagnons du Goût de l'épicerie champenoise à Embonnet, chez Jérémy Tourteau à Avize, à la boucherie Les Sarments à Épernay ou encore à la maison Pascal Audino à Reims et dans l'Aube, à la boucherie Moderne à Troyes, au traiteur Saint-Laurent à Nogent-sur-Seine et enfin chez le traiteur Fèvre à Bar-sur-Aube. Donc on peut dire, Yann Le Guen, il y a de nombreux partenaires dans notre territoire Champagne-Ardenne. D'ailleurs, on peut retrouver l'ensemble des professionnels concernés sur votre site internet des Compagnons du Goût.
Absolument, pour tous vos auditeurs qui sont intéressés pour savoir qui nous sommes et quelles sont nos motivations et puis notre métier, vous pouvez consulter le site compagnonsdugoût.fr et vous aurez absolument toutes les localisations de toutes nos boutiques Compagnons du Goût à travers la France. Et je le répète bien, ce sont des artisans bouchers charcutiers indépendants et nous sommes un réseau de qualité pour justement encourager et faciliter leur travail au quotidien.
Une belle opération de solidarité. Merci beaucoup, Yann Le Guen, d'avoir été avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, responsable de l'opération Les Compagnons du Goût. Et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, une très belle opération.
Merci Christopher Fauston. Et puis venez nombreux dans nos boutiques Compagnons du Goût. À très bientôt.
Merci Yann Le Guen et Christopher Fauston. Depuis 2014, 292 000 euros ont été versés à l'association.
Le 18-19 sur RCF.
On retrouve Mgr Éric de Moulin-Beaufort dans Parole d'évêque avec Jean-Pierre tout de suite.
Mgr Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Toujours en direct, toujours dans ce studio de Reims, en ce 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception. On peut peut-être rappeler quand même que c'est un jour important pour...
Ben oui, en tout cas c'est une belle fête que l'Immaculée Conception, donc... le 8 septembre fête-t-on la Nativité de la Vierge Marie, et puis donc le 8 décembre... Nous fêtons ce grand mystère qui est que nous croyons qu'elle a été conçue sans le péché originel de manière à pouvoir donner au nom de l'humanité un oui complet, un consentement entier à l'œuvre de Dieu. Donc le lien entre Dieu et l'humanité est rétabli en cette petite femme d'Israël, enfin petite ou grande, j'en sais rien, mais enfin en tout cas cette jeune femme d'Israël qui a la capacité de dire oui au nom de tous. Et comme elle est préservée du péché, eh bien elle est préservée de tout ce qui... nous sépare les uns des autres, tout ce qui nous, non seulement nous sépare de Dieu, mais nous sépare aussi les uns des autres. Et donc, c'est, voilà, dans notre temps toujours inquiet, eh bien, c'est un réconfort de savoir que un lien est maintenu définitivement entre Dieu, est établi définitivement entre Dieu et l'humanité.
Depuis quelques jours, depuis dimanche dernier, Monseigneur, nous sommes entrés dans la période de l'Avent qui prépare Noël. Alors là aussi, vous avez vécu des événements, on va y revenir, mais c'est un temps important pour les auditrices, les auditeurs de RCF.
Voilà, nous préparons Noël, mais nous préparons surtout la venue du Christ dans la gloire, qui se vivra pour chacun d'entre nous de manière différente. Ça peut être le jour de notre mort, ça peut être le jour de la fin de toute chose. Mais en tout cas, voilà, nous savons que le Seigneur revient dans la gloire, et nous l'attendons, même dans l'histoire troublée de notre monde. Nous avons cette espérance que cette histoire, elle ne débouche pas sur le chaos, mais sur la communion avec Dieu et les uns avec les autres.
Alors, dans l'agenda de ces jours prochains, dimanche, il y a une rencontre importante des religieuses du diocèse.
Non, c'est samedi,
c'est
demain.
Samedi, demain. Voilà. Demain, samedi, des religieuses du diocèse à Cormontreuil. Ça aussi, c'est un rendez-vous important.
Oui, tous les ans, donc nous avons une journée de la vie religieuse dans le diocèse. Ça sera pour l'occasion pour moi de les revoir depuis toutes, disons, d'un seul coup, j'espère. Et puis, pour Mgr Vetteux aussi, de les rencontrer. Il a commencé à en faire le tour, mais voilà, il en découvrira quelques autres. Nous avons la chance d'avoir des religieuses contemplatives dans les quatre monastères du diocèse, et puis des religieuses apostoliques dans différentes communautés. Et donc c'est une joie de les réunir tout ensemble.
Alors le 9 décembre aussi, c'est la soirée de la laïcité que nous avons célébrée ce soir. Hein. Mais le 9 décembre, c'est la journée de la laïcité. C'est important, on va évoquer cette table ronde aujourd'hui. Vous participez à la salle Sorbonne à ce débat.
Donc la loi de séparation Église et d'État a été votée le 9 décembre 1905. Donc depuis quelque temps, l'État la commémore en organisant des tables rondes. Comme le 9 est un samedi, bien, la table ronde aura lieu ce soir, vendredi, ici dans l'Institut catholique de Paris.
Avec l'ICP, avec la RCF, avec voilà. Une participation croisée.
Voilà, et c'est vous Jean-Pierre qui animerez la table ronde qui aura lieu. Oui, ben, il est important de se rendre compte que dans notre pays, ben, nous avons la liberté religieuse. Il est possible à toutes les religions de vivre. La République a reconnu l'existant, sans reconnaître aucun culte, la République laisse aux religions la liberté de vivre, de s'organiser. Elle crée un cadre d'ordre public dans lequel il faut que tout le monde accepte d'entrer et dans lequel nous entrons de bon cœur. Et en même temps, la République reconnaît que eh bien, les citoyens ne vivent pas simplement des valeurs républicaines, mais peuvent puiser leur énergie spirituelle, morale, dans d'autres sources, et en particulier dans la source religieuse.
Alors cette soirée, faut bien comprendre, elle n'est pas ce qu'on appelle interreligieuse, elle est centrée sur la laïcité, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé il y a 1905,
voilà.
Et puis ce qui se passe aujourd'hui. Alors justement, ça sera certainement évoqué au cours de la rencontre, il y a l'émergence de nouvelles religions, la religion musulmane en particulier, avec des personnes qui, quelques-unes, radicalisées, n'entrent pas forcément, et n'entrent pas du tout d'ailleurs, dans cette forme de laïcité.
Ben, c'est la définition même des personnes radicalisées d'une certaine façon, hein, c'est de refuser ce modèle, c'est-à-dire consiste à accepter que les religions ne disposent pas de la force, de la violence. Ce qui, d'ailleurs, pour le christianisme est consubstantiel, normalement, devrait l'être en tout cas. Le christianisme n'est pas fait pour se développer dans la force et dans la violence. Donc, si j'ai bien compris, la table ronde de ce soir, elle veut revenir un petit peu au fondement et donc à ce qui s'est passé en 1905. Mais aujourd'hui, de fait, une question se pose, savoir comment la laïcité est un cadre possible pour permettre à l'islam, à nos concitoyens musulmans, de vivre paisiblement en étant respecté et en se sentant à l'aise dans notre système républicain. Et puis à nous, chrétiens, d'apprendre à vivre avec une autre religion et de vivre la nôtre profondément et de la faire rayonner le mieux possible.
On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler et d'approfondir tout cela, parce que c'est vrai aussi que vous l'avez mentionné, vous le mentionnerez peut-être ce soir, dans un cadre d'une société catholique dominante, des religions qui sont marginales ou marginalisées n'ont pas forcément, ne se sentent pas investies d'une mission particulière, alors qu'elles le sont davantage aujourd'hui.
Ben voilà, c'était ça le cadre d'autrefois. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre cadre.
Monseigneur, quelques rendez-vous quand même. On regarde toujours un petit peu l'agenda. En particulier, il y a l'arrivée de la flamme de Bethléem. Ça sera Vitry-le-François avec les scouts. Là aussi, ce sont des moments importants, quelques jours de Noël.
À chaque année, donc, les scouts du monde entier vont venir, ces scouts autrichiens qui vont chercher la lumière à Bethléem, dans la grotte de Bethléem, dans la petite lampe à huile qui brûle à l'endroit supposé de la nativité de Jésus. Et ensuite, c'est distribué comme ça à travers le mouvement scout dans toute l'Europe, en tout cas. C'est un beau signe de paix et d'espérance. Et cette année, tout particulièrement, étant donné ce qui se passe en ce moment en Terre Sainte, hein, que ce soit en Israël, que ce soit dans la bande de Gaza, que ce soit en Cisjordanie, les tensions sont extrêmement vives, les esprits sont extrêmement inquiets, tendus, remplis de peur, de colère, de haine. Et donc, il est important que nous associons tous à la prière pour la paix, pour la conversion des cœurs. Il se passe des choses de terribles en ce moment. Et il s'est passé des choses affreuses le 7 octobre, il se passe des choses terribles en ce moment. Et il est important que nous nous mobilisions pour que la paix puisse l'emporter. Parce qu'une fois que la guerre sera gagnée par Israël, quel monde vont-ils construire ?
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort d'avoir été en direct avec nous.
Merci Jean-Pierre, bon temps de l'Avent à vous et à tous et à toutes.
Merci Monseigneur, merci Jean-Pierre. Tout de suite, le 18-19 continue.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
C'est aujourd'hui, vendredi 8 décembre, que sont lancées les illuminations de la ville de Vitry-le-François. Avec ces illuminations, c'est tout le côté festif des animations de Noël sur la place d'Armes qui ouvriront leur chalet. Mais aussi les animations dans les rues ou autres endroits festifs de la ville, salle du manège, hall, médiathèque, Albert Camus, cinéma, Pierre Brasseur, Orange Bleu ou la Collégiale. Pour en parler, Anna Réolon, adjointe au maire de Vitry-le-François, chargée de la culture.
Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous faire venir à Vitry-le-François pour découvrir les festivités qui y sont préparées pour vous du 8 décembre au 7 janvier. Pour en parler, j'ai près de moi Anna Réolon, qui est adjointe au maire chargée de la culture. Bonjour Anna.
Bonjour Gérald.
Anna, 8 décembre, c'est très bientôt.
Bon, ça y est, nous rentrons dans la magie de Noël, nous rentrons dans une période qui invite à la promenade, à se divertir et à célébrer cette belle période qui est celle de Noël et qui est chargée de poésie et qui se veut familiale et conviviale aussi. C'est ce que nous avons recherché, ce que nous recherchons à chaque fois dans les animations de Noël qui seront effectivement proposées cette année. Alors il y a beaucoup de choses, hein. On veut aussi faire plaisir, vous comprenez bien, aux enfants, mais pas que, aux ados, aux familles, aux grands également, puisque la variété est telle que chacun pourra y trouver matière à se faire plaisir. Et donc le 8, c'est le grand lancement déjà des illuminations. Ça va vraiment être un feu d'artifice, de lumière, de sujets plus beaux les uns que les autres. À chaque fois, on essaye de décorer encore un peu mieux, de rajouter une touche par-ci, par-là, et de faire en sorte que ces illuminations soient d'année en année, finalement, on améliore, on rajoute quelques sujets aussi. C'est un grand moment, effectivement, de féerie. Donc, le 8 décembre, j'invite tout le monde à venir sur la place d'Armes à 17h30 pour, d'une part, les illuminations, et puis d'autre part, découvrir toutes les animations qui seront sur cette place. Donc nous aurons effectivement une patinoire, une luge, le traditionnel manège, qui est bien sûr gratuit. La patinoire et la luge sont à très modique somme, bon, c'est réellement abordable pour tout le monde. Alors je tiens à préciser que la luge cette année, c'est une plus grosses luches que les années précédentes. Donc il y a 3 descentes et c'est des descentes avec des bouées, non pas avec des plateaux comme on avait les années précédentes. Et là, on démarre de beaucoup plus haut et ça glisse encore mieux. Donc du coup, ça peut faire des sensations un peu plus fortes. Et l'avantage aussi de cette luche cette année, donc, c'est que les petits peuvent être accompagnés du papa ou de la maman, les tout petits, et les ados, évidemment, pourront y trouver aussi beaucoup de plaisir. Nous aurons aussi notre maison du Père Noël, aussi, qui sera présente sur la place, avec à l'intérieur, au fil des semaines, hein, puisque on va être sur une période quand même assez longue, hein, presque tout le mois de décembre et jusque tout début janvier, où on aura donc dans la maison du Père Noël des petits ateliers créatifs, des lectures. Par exemple, on pourra fabriquer une robe végétale miniature, des centres de table, des contes, etc. Donc tout le programme, évidemment, est disponible également. On peut se le procurer facilement. On aura les balades à poney certains jours, le 20, le 23, le 30 décembre, et le 2 et le 6 janvier. On n'oublie pas, bien sûr, la visite du Père Noël. Et c'est le grand moment du 24 décembre, incontournable, historique, puisque, comme vous le savez, Gérald, le Père Noël arrive en train à Vitry. Donc, le 24 décembre, à 16h, j'invite tout le monde à nous rejoindre pour assister à la parade du Père Noël. Alors, il y aura le cercle des 17, les majorettes qui entourent le Père Noël, qui prend ensuite ses quartiers dans la calèche. Et ensuite, il arrivera place d'armes et on pourra faire bien sûr des photos avec lui comme à chaque fois. Nous avons d'autres animations qui vont émailler tout ce mois. Nous avons notamment une exposition fort intéressante à la médiathèque Albert Camus, où vous avez tout l'âge d'or d'Hollywood à travers des briques. Donc je peux pas dire le nom, mais chacun comprendra. Et je l'ai vu, écoutez, c'est vraiment superbe. Il y a des réalisations autour du cinéma hollywoodien, autour de, par exemple, les aventures de l'Arche perdue, King Kong. Il y a vraiment des réalisations absolument exceptionnelles, hein. Donc c'est gratuit, c'est ouvert au public. Il y a aussi nos chalets, hein. J'oublie pas tous les chalets. La place, elle est quand même extrêmement vivante, extrêmement bien rempli, donc il y aura de quoi faire des petits cadeaux également avec tous les chalets. Le 17 décembre, encore une belle journée puisque nous aurons le défilé des Pères Noël à moto à partir de 14h30 en ville. Et nous aurons également, donc, cette année, une première, toujours le 17 décembre, à partir de 15h et jusqu'à 17h précises, parce qu'après, à 18h, la collégiale est prise par ailleurs. Donc, de 15h à 17h, n'oubliez pas, il y a des chorales du Vitria qui viendront faire un superbe concert de chant de Noël. Alors, c'est vraiment une prouesse qui a été faite par l'association des Amis de la collégiale, parce qu'en très peu de temps, ils ont réussi à fédérer toutes les chorales du secteur et chacune des chorales interprétera un certain nombre de chants pour terminer ensuite tout ensemble, donc ça risque d'être assez impressionnant, qui vont chanter Douce Nuit pour terminer ce concert. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir à la collégiale pour assister à cette belle initiative que je salue vraiment chaleureusement par les amis de la collégiale. Il y a du cinéma aussi, c'est pas dans la plaquette, mais je le signale, il y aura 3 films qui seront diffusés au cinéma Pierre Brasseur. Donc des films qui sont dans l'esprit de Noël à des tarifs tout à fait attractifs.
Pour finir, Anna, on va rappeler les dates, on va rappeler le lieu emblématique et puis où surtout trouver le programme complet.
Je rappelle les dates du 8 décembre au 7 janvier. Vous avez une belle plaquette, vous la trouverez partout et vous avez vraiment tout en détail, le programme, et bien sûr vous pouvez aller sur le site de la ville également où vous découvrirez toutes les animations, tous les petits ateliers, tout ce qu'il y aura à découvrir dans différents endroits de la ville.
Anna Réolon-Hercy, je rappelle que vous êtes l'adjointe au maire de Vitry-le-François, chargée de la culture.
Merci Gérald de cette interview et bienvenue aussi sur cette place d'armes.
Des propos recueillis au micro de Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. À noter sur vos agendas le premier concert de chant de Noël avec 5 chorales du Vitriade proposé par l'association Les Amis de la Collégiale le dimanche 17 décembre de 15h à 17h, entrée libre. Le programme complet des animations de la ville de Vitry-le-François est disponible sur le site internet de la ville vitry-le-françois.net. Et c'est ici que se referme ce magazine régional, fin de mon dernier magazine, fin de mon stage. Au revoir Kylian.
Au revoir Manon.
Au revoir Alexis.
Au revoir Manon, merci pour votre investissement, comme on en parlait hier. Merci pour votre sourire, votre bienveillance, votre bonne humeur à l'antenne encore ce soir et comme vous l'avez fait tout au long de vos 5 semaines de stage. C'était un plaisir pour nous, pour toute l'équipe de RCF, pour nos bénévoles de vous accueillir, de vous côtoyer au quotidien.
Justement, merci à toute l'équipe, à nos bénévoles et aux auditeurs. Et bien sûr, on souhaite un bon anniversaire à la maman de Thierry qui nous écoute tous les jours. Joyeux anniversaire, Sylviane.
Il y a des auditeurs privilégiés quand même sur RCF.
Effectivement. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée sur RCF.